Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le rétro, nouvelle balade. Chaque week-end, on part tous ensemble pour un voyage dans le temps, un voyage qui nous permet de nous interroger sur nous-mêmes parfois, puisque même si on n'a pas la même vie, on a souvent les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Aujourd'hui, nous sommes avec une actrice top modèle, comédienne et auteure. Avec elle, le temps rime avec sérénité, générosité, intensité et légèreté. Elle nous livre depuis janvier les clés pour bien vivre avec son âge. Bonjour Estelle Lefémur.
Bonjour.
En fait, sur Google, quand on cherche des choses à votre propos, en tapant Estelle Lefébure,
oui,
il y a une question. Quel âge a Estelle Lefémur? Vous n'avez jamais vu?
Ah non, jamais.
Je m'en doutais.
C'est drôle.
C'est un truc de fou.
Non, Lefébure. Je suis très fière de mon nom de famille en plus. On ne va pas l'écorcher.
Alors, Estelle Lefébure, votre livre s'appelle « Welcome, accueillir le temps qui passe ». Accueillir, ce mot, il est super important. Ça veut dire qu'on ne lutte pas contre le temps qui passe.
On ne peut pas lutter contre le temps.
On essaye. Hein.
Déjà, on ne peut pas faire machine arrière, hein, on le sait. Donc, autant aller avec la vague, suivre la vie avec sérénité, essayer de vieillir bien, parce que c'est possible.
Grâce aux conseils d'ailleurs, parce que vous...
Et commencer à n'importe quel âge.
Ouais. Vous, il y a un âge à partir duquel vous vous êtes dit « là, il faut vraiment que je prenne soin de moi, que je prenne le temps ».
Non, alors moi, c'est particulier parce qu'avec mon métier de mannequin, forcément, j'ai commencé très tôt. L'hygiène de vie importante et soi-disant parfaite. Et non, mais vraiment apprendre comment bien manger, comment bien
dormir,
sa peau, dormir. Alors ça, c'est pas
oui,
ce qu'il y a de plus
facile.
Oui, c'est
ce que j'allais
dire. Hein. Alors une activité physique, ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été sportive depuis toute petite. Mais c'est vrai que prendre soin de soi, ça a été quelque chose que j'ai appris très vite, en fait.
L'idée de ce livre, Estelle Lefébure, vous est venue quand vous êtes devenue grand-mère. Mamie Estelle, alors?
Tout à fait.
On vous appelle Mamie Estelle, non? Comment on vous donne un petit nom, non?
Oui, mais ça, je le garde.
D'accord.
Non, oui, c'est être grand-mère jeune, je trouve ça génial parce que je suis encore très active. Mais surtout, c'est que j'ai ce double rôle. Je suis maman,
ouais,
mais je suis maman d'un jeune garçon. Il a 14 ans, donc je vais avoir la vie quotidienne avec un ado. Et puis en même temps, j'ai la vie avec un petit garçon. Et donc, c'est très drôle de pouvoir partager ça.
Le rôle n'est pas le même.
Ah non, pas du tout.
Qu'est-ce qui change?
On a un rôle, je dirais, plus de transmission avec son petit-fils ou ses petits-enfants, parce que on va essayer d'apporter plus d'histoire, sa propre histoire, et essayer de faire partager tout ça. Et c'est peut-être un peu ce que je regrette de ne pas avoir eu avec mes grands-parents assez de temps pour pouvoir apprendre, en fait, leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, avec mon petit-fils et mes futurs petits-enfants, j'espère en avoir plein, eh bien, moi, je suis ravie d'avoir cet âge-là et de pouvoir commencer à partager des choses, même des passions.
Vous êtes ravie d'être mamie?
Mais grave.
Ah ouais. Une des choses, Estelle Lefébure, les plus importantes pour bien vivre son âge, c'est se libérer du jugement des autres. Super difficile dans la société aujourd'hui de se libérer de ça.
Mais c'est primordial. C'est certainement le déclic qui fait que après on se sent bien. On se sent forcément bien libéré. Bien sûr, je dis pas que c'est facile.
Non.
Ouh là 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 là. C'est un travail de longue haleine, vraiment. Quelquefois, on peut avoir toute une vie pour arriver à ce stade-là. Mais si on peut le faire le plus tôt possible, c'est génial. Parce que c'est un poids, en fait, de faire quelque chose par rapport à quelqu'un ou de dire quelque chose par rapport à quelqu'un.
Ça veut dire que vous vous en foutez ce qu'on peut penser de vous?
Franchement, oui, ça commence. Après, tout dépend qui va me dire forcément des
sûr.
Choses, mais ou des critiques. Mais en général, ouais, je commence à me dire, bah, après tout, si la personne, ça lui plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde. Donc...
Le jugement des autres, il passe beaucoup aujourd'hui par les réseaux sociaux, les filtres sur les photos. Aujourd'hui, les 18-35 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les personnes de plus de 50 ans. Mais il y a quand même un mal-être derrière tout ça.
Forcément, il y a un mal-être ou une recherche d'identité, c'est-à-dire que la personne ne sait pas trop où se placer ou qui elle est. Mais c'est normal, en même temps à 20 ans, on ne sait pas. Mais sauf que c'est peut-être pas le bon moyen pour essayer de se trouver, d'essayer de ressembler à un tel ou un tel, et d'être influencé par certaines personnes. Je trouve ça difficile. Je pense que nous, à notre époque, quand on était mannequin, moi j'ai commencé à 19 ans donc, et peut-être à 20 ans, oui, je devais influencer certainement des jeunes filles. Mais je pense pas qu'on les influençait dans ce sens-là, c'est-à-dire à se changer et à devenir avec des lèvres comme ça pulpeuses qui sont pas forcément jolies en plus. Je parle des lèvres et d'avoir des seins, des faux seins tout de suite, des fausses, enfin voilà, rajouter des fesses ou enfin tout ça, se changer.
Et puis là, ça commence de plus en plus jeune aussi.
C'est ça.
Ouais.
Mais en fait, il y a aussi, je trouve qu'il y a une part de responsabilité des médecins, des chirurgiens, peut-être même carrément du ministère de la Santé pour essayer de mettre en garde tous ces gens-là. Personne ne le fait.
Pourquoi, à votre avis, on ne le fait pas ? Business.
J'allais dire, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Business. Mais le problème, c'est que j'ai vu là maintenant, il y a même des gens qui le font illégalement. Et ça, faites très attention. Vraiment. Parce que là, ça peut faire d'abord des dégâts irréversibles. Et puis ensuite, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a comme produit. Est-ce que... Non, franchement.
On voit des opérations qui ont complètement foiré. C'est choquant. Hein.
Du coup, vous avez recours à d'autres chirurgies pour réparer. Voilà, évitons. Mmh. Et puis encore une fois, je trouve qu'à 20 ans, on n'est pas encore complètement formé, fini. Même son corps, même ça bouge encore. Par contre, voilà, je ne suis pas contre la chirurgie, quand il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on ne peut pas vivre avec. Les oreilles, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un menton, Bon, voilà, ça peut être très difficile à vivre, mais pas pour ressembler à quelqu'un. Ce n'est pas la même chose.
Estelle Lefébure, vous êtes belle au naturel. Ce n'est pas pour rien que vous avez été top modèle. C'est quand même plus facile de s'accepter et d'être bien dans ses pompes quand on est jolie.
En vieillissant, vous voulez dire ?
À tout moment de la vie.
Parce qu'en vieillissant, au contraire, je dirais plutôt
c'est plus
le contraire.
Difficile à vivre.
Quand on est mannequin pendant plusieurs années, de longues années, on représente une certaine beauté. Et forcément que quand cette beauté change, je ne veux pas dire qu'elle se dégrade, parce que ce n'est pas un joli mot, mais elle change, forcément, on a l'habitude de se scruter dans le miroir tous les jours, à la moindre apparition d'une ride ou d'une peau un peu plus moins hydratée.
Distendue un peu quand ça commence un peu à pendre.
Le corps un petit peu moins musclé par-ci, par-là, ou un petit bourrelet qui apparaît. Je pense que ce n'est pas forcément plus facile.
Dans votre livre, on apprend plein de petites choses pour bien manger, bien dormir, moins stresser, pour vivre mieux. Vous glissez des petites infos aussi, j'y avais jamais pensé, mais vous parlez du cœur des femmes et des hommes. Mmh. On a un cœur différent.
L'organe est plus petit déjà, plus sensible. Sensible au stress, et on sait que les femmes ont un taux de stress plus élevé, de par tout ce que l'on fait.
La charge mentale, parfois.
Voilà. Et entre les enfants, le travail... Oui, en effet, c'est différent. Et surtout, c'est qu'en fait, les médecins, ils font leurs études sur des cœurs, mais d'hommes. Et aussi, on voit quand même beaucoup plus de cardiologues hommes que femmes. Il y a vraiment une inégalité dans le diagnostic de certains symptômes. Et ça, c'est très grave. Parce qu'en fait, on ne nous dirige peut-être pas tout de suite vers un cardiologue, par exemple.
Il y a une petite info plus légère concernant le cœur. Il assure notre survie et celle du fœtus quand on est enceinte. C'est-à-dire que le cœur peut pomper 10 à 12 litres de sang par minute au lieu des 5 habituels. C'est dingue, ça, quand même.
Vous imaginez la nature ? C'est fabuleux. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a énormément, tout au long de notre vie, des changements hormonaux, comme une vague, c'est-à-dire qu'on va avoir des baisses d'hormones, puis une montée d'hormones entre la puberté, au moment où on est enceinte, après l'accouchement, et puis après, il y aura la périménopause et la ménopause. Ça fait beaucoup pour une seule femme.
Tout ça, vous en parlez dans votre livre « Welcome, accueillir le temps qui passe ». C'est un livre qui va vous accompagner dans votre quête du bonheur et du bien-vivre. C'est l'importance de prendre soin de soi, de s'écouter et d'envoyer valser toutes ces injonctions qui pèsent sur nos vies et reprogrammer son cerveau pour qu'il soit au service de notre cœur et de notre bien-être. Estelle Lefébure, nous, ici, le temps, on va le remonter. C'est le week-end, c'est ici votre radio. Dans les années 80-90, il y avait Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. En France, on avait Estelle Lefébure. La top modèle et actrice est avec nous aujourd'hui.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez en Normandie, à Rouen. Votre mère Denise et votre père Gilles sont gérants de plusieurs salons de coiffure et de beauté. Le physique, l'esthétique, l'apparence, c'était quelque chose d'important dans votre vie d'enfant et d'adolescente.
Alors, il n'y avait que ma maman qui était coiffeuse. Mon papa était directeur d'une boulonnerie.
Ah, mais ah, je croyais que c'était le grand-père qui était directeur d'une boulonnerie.
C'est
d'accord.
Mon papa. D'accord. C'est mon papa. Et ma maman était coiffeuse, par contre, d'accord, depuis l'âge de 15 ans. Donc, ouais, elle a eu une grosse carrière dans, voilà, dans la coiffure. Non, je pense pas que c'était important pour moi. Enfin, en tout cas, alors pour mon père, oui, parce qu'il était passionné de photos. Et il développait lui-même, voilà, des photos qu'il faisait, et notamment de moi. Mais je posais pas comme la petite fille avec des couettes, des petits nœuds très girly. Non, en fait, c'était plus de l'instant. Et donc, du coup, je me souviens très bien de ces développements de photos au laboratoire,
dans son petit labo.
Exactement, j'adorais ça. Je n'avais pas le droit de rentrer, bien sûr, quand la lumière est rouge. Et je me souviens toujours, je devais attendre devant la porte. C'était fabuleux. Il y avait un vrai mystère au moment où la photo apparaît. Mais en fait, j'ai jamais été trop dans l'image parce que je pense que j'étais plus intéressée par les animaux, les balades en forêt, aller ramasser les marrons. Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais mon petit monde autour de moi, c'était des animaux et j'étais fille unique. Voilà, donc moi je me créais un petit monde.
C'est ce que j'allais vous demander.
Mais pas de
vous
mode, êtes... ouais, pas
vous
du
êtes...
tout.
Mais oui, vous êtes fille unique et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants uniques qui s'imaginent avoir un frère ou une sœur ou se plongent dans un monde un peu imaginaire. Vous, c'était votre cas, je crois que c'était la mère aussi beaucoup.
Oui.
C'était aussi votre monde.
Alors... En effet, j'ai pas eu de frère, mais j'ai eu un cousin très proche qui n'a que 2 ans de différence avec moi, plus jeune. Et en fait, on a été un peu élevés ensemble. Ouais. Donc, on a fait les 400 coups ensemble. Mais vraiment. Et c'est le frère que j'ai pas eu. Et voilà, donc moi, c'était les aventuriers, quoi. Donc, j'étais comme un petit garçon, quoi. Être dehors, faire les fous. Voilà, c'était plus ça, mon environnement.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Estelle Lefébure, vous grandissez à Tote, en Seine-Maritime, téléportation. Vous avez maintenant 9 ans, vous êtes sur les genoux de votre papa, vous tenez le volant de la BM familiale. J'imagine que c'est des souvenirs joyeux. Votre papa vous a aimé d'un amour inconditionnel, même s'il aurait aimé avoir un garçon. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, il vous a élevé un peu comme un garçon. Est-ce que ça prépare mieux à la vie ?
Peut-être. C'est peut-être ça, si on analyse en fait un peu tout mon parcours d'enfance. Et la relation avec mon papa, en fait. C'est certainement ça qui m'a donné une certaine force, une certaine vision des hommes aussi, peut-être. Mais surtout, je m'aperçois maintenant qu'entre petite, enfin après 9 ans, là, j'aimais conduire déjà les voitures, ce qui m'a amené plus tard
au sport mécanique.
Voilà, à faire des courses automobiles, quand même. Après, il y a aussi un moment où j'ai une moto à 14 ans. Donc, c'était plutôt la bande de copains. Et même là encore aujourd'hui, je vois, je skie et c'est plus avec des copains, même si j'ai quand même des amis. Hein, ouais. Faut pas non plus imaginer.
Vous traînez plus avec les gars ?
C'est un peu ça. Alors j'ai une amie d'enfance, toujours très proche, mais voilà, c'est plus une bande de garçons et je m'y sens bien. C'est pas un rapport de séduction, mais c'est plus un rapport de copains, d'amitié.
C'est possible ça ? C'est possible.
Bah, la preuve que oui.
Certaines femmes et certains hommes d'ailleurs ne croient pas forcément en l'amitié. Homme-femme, quoi.
Ah ben là, c'est sûr qu'il y a certaines femmes qui pensent que, en me voyant, font « Ah, c'est pas possible !» Puis qui peuvent avoir peur pour leur mec, hein, ouais, ça c'est clair. Ouais. Et pourtant, moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout.
Dans cette optique.
Moi, je préfère parler de voiture parce que j'aime ça. Donc, c'est plus mes passions et...
Dans votre livre Welcome, Estelle Lefébure, on y voit des photos de vous, enfant, avec vos parents en Normandie. Vous qui êtes à l'aise avec l'idée du temps qui passe, est-ce que vous êtes quand même nostalgique ?
Là, j'ai voulu mettre des photos, en effet, de mes parents, des personnes qui me sont chères, et de partager un petit peu plus d'anecdotes et des choses un petit peu plus personnelles comparées aux autres livres.
Ouais.
Mais nostalgique, je veux pas de regrets, parce que ça, c'est assez négatif. Nostalgique, forcément, par moments, voilà, si on va parler, on peut avoir des moments nostalgiques.
Sans tomber dans la mélancolie, où là, c'est
voilà,
plus triste.
Là, c'est triste.
Ouais, plus pesant.
Mais en fait, on s'aperçoit que chaque souvenir crée toute une histoire de vie, quoi. C'est assez extraordinaire. Et qu'il est important de temps en temps de se rappeler de ces souvenirs.
Et de les transmettre aussi par la suite.
Et de les transmettre. Mmh.
Vos parents se sont séparés, vous aviez 12 ans. À l'époque, peu de parents divorcés. Est-ce que ça a brisé quelque chose en vous ?
Ah oui, bah le noyau familial. On n'était que trois. Hein. Donc là, d'un seul coup, on se retrouve deux d'un côté ou deux de l'autre. Mon papa tout seul, moi je vivais avec ma maman. Pas facile quand même d'accepter, surtout à 12 ans, où on est en train de se chercher un peu. On devient un peu plus jeune fille quand même, mais en même temps, enfin, c'est mitigé. Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est voilà, la cassure totale. En plus, assez violent. Enfin voilà, là, ça s'est fait assez violemment. Voilà, on entend des engueulades et tout, c'est pas terrible quoi. Puis après, on est un peu baladé comme ça, d'un côté de l'autre. Et moi, je m'étais toujours dit, si jamais un jour ça doit arriver, jamais je ferai ça. Parce que je pense que ça reste ancré quand même. Il y a forcément une blessure.
Est-ce qu'on dit même carrément au départ, quand on commence dans la vie ? Ouais. Exactement. Et puis même, est-ce que justement, on se dit non, mais moi, je ne reproduirai pas ça. Donc en fait, on veut croire à l'amour éternel, quoi, en gros.
Oui. Ah oui. Oui, on se dit ça.
Et quand donc, du coup, on divorce, on se dit quoi ? On culpabilise à ce moment-là ? On se dit, bah merde, finalement, j'ai fait la même chose ?
Non, moi, j'ai pas fait la même chose. Moi, j'ai réussi à chaque fois à. Voilà. Je sais que forcément, on fait des erreurs. Mais je n'ai pas fait la même chose, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Il est plus facile d'aimer les gens que de vivre avec eux. L'amour, c'est du rêve. La vie à deux, c'est du travail. C'est ce qu'a dit le réalisateur Barbette Schroeder à propos de l'amour et du couple. Vous, ce serait quoi votre définition de l'amour et du couple ?
C'est le partage, donner, recevoir.
Donner pour recevoir ?
Ah non.
Bah non,
non, non.
Bah non. Non, mais j'essaie un peu de...
Ah, c'est vrai que je les ai enchaînés, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que j'ai dit donner. Et puis, l'amour, c'est un état un peu où on est sur un nuage. Enfin, il y a quelque chose d'assez...
L'amour, oui, mais après, le quotidien peut parfois, là, c'est encore autre chose.
Ah non, oui, c'est pas la même chose.
Ouais.
Après, en effet, l'amour aussi se travaille. La vie à deux se travaille. Ça, c'est très important. Et ça, pour le coup, on n'a pas de recette, en fait, vraiment.
Ça
au départ, on
ne
vous le dit pas, on n'apprend pas ça dans les livres. C'est sur le tas, en fait. Mais je pense qu'il y a surtout la clé, c'est de comprendre l'autre. Comprendre l'amour de l'autre. Parce qu'il y a différents amours.
Pas toujours facile de comprendre l'autre. Hein.
Ah, mais non.
Il faut pouvoir se mettre à sa place aussi.
Mais je pense que dans la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis le respect. Justement, respecter la façon dont l'autre vous aime. Elle n'est peut-être pas exactement comme vous le vouliez, mais vous avez pareil dans l'autre sens. Donc c'est très, de toute
c'est
façon,
dur. Hein.
C'est dur, oui, mais est-ce qu'on pourrait vivre sans ?
Difficile.
Voilà aussi.
Estelle Lefébure, le voyage continue. Passez un bon week-end en écoutant ici votre radio. Son livre Welcome aux éditions Flammarion vous aide à accueillir le temps qui passe. Comédienne et mannequin, Estelle Lefébure est notre invitée.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Estelle Lefébure, après avoir passé quelques années sur les bancs du lycée Tourelle à Rouen, vous faites un BTS informatique et comptabilité, téléportation. Nous sommes dans une friperie, vous vendez des vêtements de surplus militaire. Régulièrement, vous vous rendez à Paris pour vous fournir en fripe par ballot entier. Ce jour-là, dans la rue en 1983... Vous faites du shopping tranquillement, boulevard Sébastopol. Claude Haddad vous accoste et vous propose de rejoindre son agence de mannequin Prestige Mademoiselle. Vous refusez à 17 ans. C'était trop jeune, 17 ans, pour vous lancer dans l'aventure du mannequinat ?
Je ne sais pas si c'était trop jeune parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ça. J'aurais peut-être aimé que ma mère me dise « Ah, bah pourquoi pas ?» Non, non.
Ça ne s'est pas passé comme ça ?
Ah non, pas du tout. Elle a été radicale. Elle m'a dit « Tu passes ton bac et on verra après. » Ok.
Normal.
Et j'étais pas si rebelle que ça, en fait, parce que à 17 ans, aujourd'hui, on pourrait dire, tu sais quoi, je vais quand même le faire, même si t'es pas contente. Moi, non. J'ai écouté ma maman, j'ai passé mon bac, je ne savais toujours pas quoi faire. Après, je me suis dit, bon, gestion comptabilité informatique, super. Bon, bah, on va faire un BTS de gestion comptabilité informatique. Allez, on continue dans la lancée. J'avoue que j'avais quand même un petit doute de devenir experte comptable. Hein. Surtout quand vous avez votre prof de droit qui vous dit « Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle, dans mon cours ?» Parce que sincèrement, c'est pas votre place. Bon. Et bon, c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais déjà fait quelques photos. Donc, c'était des photos très nature, au bord de la plage. Enfin, vraiment, un truc avec une chemise en jean, tout simple. C'est vrai que ça pouvait un peu trotter dans ma tête.
Bien sûr.
Disant, mais pourquoi pas, quoi. Et à 19 ans, oui, là, j'ai...
À 19 ans, vous signez donc finalement avec l'agence Prestige Mademoiselle. Vous devenez alors mannequin professionnel. Vous bossez pour plein de grandes marques, Guerlain, L'Oréal, Guess et...
Aujourd'hui, 25 juillet, la légèreté n'enlève plus rien au plaisir. Coca-Cola Light est arrivé.
Enfin.
Le « enfin », c'est vous.
Ah oui, le « enfin », c'est moi.
Coca-Cola Light, pub de 1988. Vous dites que vous avez eu la chance de tomber sur le bon agent qui vous a protégé parce qu'il y a beaucoup de requins dans le métier. Comment on fait pour pas se faire bouffer par ces requins quand on n'a personne pour nous protéger?
Alors en fait, j'ai commencé avec Claude Haddad, mais très vite, cet homme n'arrivait pas à garder ses mannequins, ses tops. Et en fait, très vite, j'ai été happée par un autre agent qui s'est occupé de moi jusqu'à aujourd'hui encore, toujours. C'est Ruth Malka, de l'agence Karine. Très vite, j'ai été repérée par Jean-Yves Le Fur, qui est devenu un peu comme mon grand frère, qui a toujours été très protecteur avec moi. Et je pense que dans ce métier, on est obligé d'avoir des personnes en qui on a confiance, ce qui n'est pas évident. Je le redis, mais j'avais une femme à côté de moi.
Et ça, c'est important.
Ouais, je pense.
Parce que c'est pareil, on est très jeune, donc on ne sait pas forcément à qui faire confiance. On peut nous faire miroiter des tas de choses, nous faire rêver, et on se laisse embarquer dans ces cas-là.
Oui, puis moi, mes parents n'habitaient pas à Paris, on n'était pas proches de moi. Donc il y a aussi cette distance qui était difficile. Je suis partie très vite à New York, donc j'avais 20 ans. Quand ma mère m'a dit « tu vas partir à New York ?» Non mais voilà, c'était pas évident non plus de lâcher sa seule et unique fille. Et après, voilà, en effet, à partir du moment où j'avais Ruth qui me conseillait, c'était mon pilier.
Vous avez vu des filles qui ont souffert, qui étaient pas bien, qui étaient malheureuses, qui...
Oui, oui.
Et vous leur parlez dans ces cas-là où on n'ose pas, on sait pas, on se pose des questions parce qu'on est jeune, c'est pas facile?
Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Après, très vite, je suis rentrée dans un noyau de filles de top, quoi, ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, Cindy, Linda, Christy Turlington, enfin Naomi. Et là, pour le coup, elles sont, voilà, on est assez solides l'une et l'autre. Même s'il y a une certaine compétition, on s'entraide aussi, on est quand même toujours, on se retrouve souvent sur les shootings tout le temps.
En fait, vous êtes fortes toutes ensemble, quoi.
Ouais. Donc du coup, c'est plus peut-être pour les jeunes qui arrivent où on se dit, oh la pauvre, il va falloir qu'elle traverse tout ça.
Ouais.
Et nous, en fait, bon, en tout cas, moi, en l'occurrence, ça s'est passé très vite. Moi, en quelques mois, j'ai eu la première couverture de elle en juillet, alors que j'ai commencé qu'en février. C'est rien.
Ouais.
C'est rien, en fait. Ouais. Pourtant, je m'étais donné 6 mois. Si je réussissais pas en 6 mois, j'arrêtais.
Vous alliez faire de la compta?
C'est ça, oui. Je sais pas ce que j'aurais fait.
Téléportation. Septembre 1989, vous devenez Estelle Hallyday en l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin de Beaucharville en Normandie. Vous avez alors 23 ans quand vous épousez David Hallyday, joie intense et peine immense. Le lendemain, votre papa décède d'une leucémie foudroyante. C'est à la fois vertigineux, inimaginable. Vous vivez le pire et le meilleur en 24 heures. C'est-à-dire qu'on vous adresse des vœux de bonheur et en même temps des condoléances. Qu'est-ce qui nous passe par la tête? Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on reçoit les mots?
J'ai vu mon papa pour la dernière fois avant mon mariage, juste avant. Ce que je veux dire, c'est que, en effet, il y avait cette joie immense de marier l'homme que j'aime à ce moment-là. Et en même temps, je vais perdre l'autre homme que
de
ma vie aussi. Donc, il y avait une certaine tristesse qu'il ne soit pas là, parce qu'il n'est pas venu à mon mariage. C'est mon grand-père paternel qui m'a accompagnée à l'hôtel. Je rêvais, moi, pourtant, d'un mariage avec, que des sourires, que
et
du rire.
Et puis papa qui vous emmène à l'hôtel.
Et mon papa qui m'emmenait avec ma robe de princesse. Et bon, on ne sait pas toujours ce que l'on veut. Et ensuite, il y avait cette petite amertume, il y avait ce petit goût de tristesse. Et après, heureusement, la joie prend le dessus sur le moment. Après, c'est difficile. Mais vous savez quoi? J'ai dû beaucoup... J'ai lu certains livres. Il y a un moment où je me suis dit... la vie, elle est faite comme ça. il va y avoir à un moment une déception, un échec, et puis après ça va remonter. Et en fait, on apprend beaucoup sur soi, tout ce qu'on peut encaisser.
Très jeune, du coup.
Très jeune. Et on m'avait offert ce livre-là, le livre tibétain de la vie et de la mort. Très compliqué à lire, d'ailleurs. Bon, j'ai mis longtemps. Et j'ai compris certaines choses. Que c'était comme ça, c'était écrit. Voilà, mais après, mon papa a attendu que je sois mariée pour partir. Et moi, avec ça, je me dis, bon, on essaye de se convaincre que c'était comme ça. C'est écrit.
C'est une façon de se rattacher aussi à quelque chose. C'est ce qu'on appelle aussi la foi, parfois, de croire en certaines choses. Je pense que le livre tibétain de la vie et de la mort, c'est un peu ça aussi.
Oui.
C'est trouver la foi, croire en quelque chose, ça c'est important.
C'est croire en l'au-delà aussi, c'est croire que cette personne va être pas très loin, qu'elle pourra veiller sur vous, mais elle n'est plus présente physiquement. Et en fait, c'est surtout ça. La mort, en fait, pourquoi on redoute ? Je parle chez nous, les Occidentaux, hein, parce que c'est pas pareil chez les Orientaux. Mais en fait, chez nous, dans notre société, pourquoi on a peur de la mort ? Parce qu'en fait, les personnes qui restent, bah en fait, on est triste. C'est très égoïste en fait. C'est que on a peur d'avoir le manque,
l'absence,
de l'absence de la personne. Mais en fait, c'est là où c'est difficile, c'est que on veut retenir la personne, mais pour soi, non pas pour elle. Cette personne-là, peut-être que c'est son chemin, il a été fait, il est fini, et puis il va recommencer. D'où le livre qui travaille quand même dans la tête un peu.
On est de passage finalement sur Terre.
Ah, complètement.
C'est un passage. En 2003, vous perdez brutalement votre maman dans un accident de voiture. À partir de là, vous perdez totalement confiance en vous. Vous culpabilisez sans cesse. Culpabilisez de quoi ?
Ah bon ?
Ah non ? C'est ce que j'ai vu dans une interview, c'est pour ça, mais si c'est pas le cas, c'est pas le cas.
Non, on pourrait culpabiliser de ne pas avoir passé assez de temps, de ne pas avoir, surtout dans ces circonstances dramatiques, la perte de ma maman dans un accident, c'est toujours
brutal.
C'est brutal, tragique. Mais après, les regrets, encore une fois, comme je vous dis, ça ne fait pas avancer. Donc moi, j'avais envie de le prendre, attention, j'ai mis du temps, hein, mais de prendre les choses différemment. Et c'est-à-dire que là, ça me frappe peu d'années après. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc en fait, je me suis dit, bon bah voilà, il doit y avoir quelque chose que je dois comprendre. Et je me souviendrai toujours, parce que à cette époque-là, j'avais une personne qui m'avait fait connaître un rabbin qui m'avait dit, vous savez, votre maman, si elle est partie, c'est qu'elle ne pouvait plus vous protéger et vous surveiller sur Terre. Mais par contre, de là où elle va le faire. Waouh ! Faut la comprendre, la phrase. Parce que là, j'ai fait... Ouais, ok, bon, bah, je vais accepter ça.
Il faut un peu de temps pour l'accepter, par contre.
Eh oui, mais en fait, ça vous sauve. Vraiment.
Vous dites, Estelle Lefébure, les chagrins m'ont appris une chose, la colère ne résout rien. Ça sert à rien d'être en colère dans ces moments-là. Même si parfois, on l'est, on a envie de... Bah ouais.
Oula. Très en colère, surtout par rapport à l'accident, puisque ça n'a pas été causé par elle. Donc j'ai été vraiment très, très, très en colère. Il y avait de l'injustice. Et donc à partir de ce moment-là, on est en colère, c'est normal. Je pense que c'est la première réaction qu'on va avoir. Et puis après, au bout d'un moment, on se dit, mais ça va me manger, ça va me ronger. Et en fait, ça sert à rien. Je pourrais pas faire revenir ma maman, donc du coup...
Estelle Lefébure, je vous propose de continuer notre voyage dans le temps dans un instant. Et si on écoutait George Michael, vous avez participé au clip, toutes de latex vêtues. On va en reparler juste après Too Funky, ici sur votre radio, c'est dans le rétro. George Michael, ici sur votre radio Too Funky. Dans le rétro, on continue notre voyage avec Estelle Lefébure, dont le livre Welcome est sorti le 22 janvier dernier aux éditions Flammarion.
Ici, dans le rétro.
Too Funky, c'était en 1992, téléportation.
Actually, it's not the same. If you could see the drawing, then I'll finish.
Nous sommes dans les coulisses du clip de George Michael. Thierry Mugler, dont vous êtes l'égérie, réalise le clip. Et c'est vous qu'on vient d'entendre. Vous vous faites coiffer. Magnifique coiffure. Des tonnes de rajouts sur votre tête et 20 kilos.
Ah, c'était horrible.
20 kilos de lac, on va dire.
Non. J'avais des rajouts de
chevaux.
De crin. Et c'était donc très lourd. Mais là, c'est ma voix. C'est fou.
C'est vous.
Parce que vous avez retrouvé ça comment?
Ouais, j'ai cherché. Non. Pendant des heures.
Mais c'est plus long. Après ?
Après, c'est les autres filles
voilà.
qui sont là.
Oh, c'est
drôle. C'est un petit pot pourri.
Donc, en fait, voilà. Bon, c'est... En fait, le tournage a été très long. Backstage, on attendait des heures et des heures entre, pour attendre que la querelle entre Thierry Mugler et George Michael se termine, puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur la réalisation. Donc, nous, on était là comme des pions à attendre. Et on attendait.
Estelle en latex ? C'est oui. très sexe.
Oui, en plus, si vous avez bien vu, je suis la seule avec un homme. Mais c'était magique, par contre, de tourner ce clip, d'avoir George Michael en face et qui vous dirige et qui respectait les jolies femmes, sincèrement. Enfin, c'est un souvenir...
De dingue.
Parce qu'en fait, on était beaucoup, énormément, mais on se connaissait tous. Mm. Et c'est ça qui était fabuleux.
Dans ce clip, Estelle Lefébure, Thierry Mugler voulait montrer que derrière le glamour et les paillettes des podiums, c'est un vrai champ de bataille. On associe cette époque à beaucoup d'excès. Aujourd'hui, le milieu de la mode, il est plus sage.
Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Enfin, l'époque des années 80-90, c'était de la folie. Dans tous les sens.
Ouais.
Mais aussi bien fou dans le bon sens que dans le mauvais sens. Mais... Et puis même les voyages, enfin on pouvait partir pendant 15 jours en voyage, ça n'existe plus. Par exemple le numéro spécial été ou choses comme ça, mais là c'est en 3 jours, hein. La fille elle bosse comme une dingue.
Ouais.
Et nous on partait 15 jours ou 10 jours, puis on avait 3 jours pour bronzer. Et puis ensuite on faisait les photos tranquilles, et c'était une vraie bande de copains. C'était beaucoup
c'est plus
pris avec de plaisir et non pas de business.
Ouais. La mode aujourd'hui, c'est aussi se faire remarquer avec des tenues improbables pendant les défilés ou les cérémonies. Une espèce de moustiquaire pour Lana Del Rey au Met Gala, Doja Cat avec une serviette de bain. Je ne sais pas si vous avez vu les photos dernièrement, c'était l'année dernière. Le fils de Will Smith dont le visage est enfermé dans un château, pas très confortable. Qu'est-ce que vous pensez de ces tendances ?
Ouais, mais là, c'est juste pour se faire remarquer. Pour moi, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas possible. Normalement, au départ, la mode, c'était pour inspirer les femmes, pour essayer d'orienter les femmes vers, voilà, on est plus sur la jupe longue ou sur la jupe courte ou pantalon dev, pas de dev, enfin voilà. Mmh. Donc, il y avait vraiment... Mais là, maintenant, c'est un melting pot de tout et n'importe quoi. Alors, heureusement, il y a quand même des maisons qui restent quand même sur leurs acquis, enfin voilà, toute leur image classe et élégante. Mais il y en a, moi j'aurais du mal.
Il y en a, sincèrement, ça part dans tous les sens, mais même dans les défilés, des fois on voit des défilés improbables.
Ouais, je...
Buzz, faire parler de la marque.
Moi je pense que c'est ça, et c'est dommage, parce qu'il pourrait y avoir tellement d'autres messages à faire passer que ça.
On rappuie sur le bouton, destination 1995, Estelle Lefébure, vous avez alors 29 ans.
Je suis Jean-Paul Gaultier and you will see my fall winter collection 1995.
Oh, la musique de folie.
Ah ouais. Collection 1995 Jean-Paul Gaultier, nous voici sur le catwalk, autrement dit le podium du défilé de Jean-Paul Gaultier. Bon, on peut dire que vous avez pris un peu de poids à ce moment-là. Je ne mens pas.
Oui, bah j'étais enceinte de ma première fille.
Vous dites, j'avais ce côté puissante qu'on peut ressentir quand on attend un bébé. À ce moment-là, j'étais au-dessus de tout. La grossesse, c'est pourtant un moment où on doute, où on peut même avoir certaines angoisses.
Non, mais là, j'étais pas du tout angoissée, là. C'était magie. J'ai dit, oh là 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 là, c'est trop beau, on va pouvoir le voir en plus, voir mon ventre.
C'était rare à l'époque, hein, qu'on montre le ventre.
C'était rare, et puis ensuite, c'était quand même assez bizarre de voir une femme enceinte dans cette collection qui était un peu Mad Max, donc avec un peu un côté guerrier. Et du coup, je me sentais en effet très puissante et limite, je surpassais un peu tout le monde parce que je me dis, mais voilà, moi, je porte la vie. Et donc, je suis une vraie guerrière.
Alors, sur le podium, ça se passe comme ça, mais sinon, quand même, moment d'angoisse, moment... Non, jamais.
Alors, oui, peut-être
de stress,
plus
un peu
de l'après. Peut-être de l'après, en se disant, est-ce qu'on va retrouver son corps? Est-ce qu'on va pouvoir retravailler? Oui, certainement, il y a des doutes. Mais en même temps, c'est le fruit d'un amour. Enfin, voilà. Et pour dire, j'ai 2 ans plus tard, mon autre fille, Emma, naît aussi. Donc, c'est que... Je voulais recommencer.
Effectivement, aujourd'hui, vous avez 2 filles, Ilona et Emma, que vous avez eues avec David Hallyday. Giuliano aussi, lui est né en 2010. 14 ans aujourd'hui, l'adolescence, c'est plus facile à gérer avec les filles ou les garçons?
Sur mes 3 enfants, j'ai pas eu de grosses crises d'adolescence. Non, vraiment. Je crois que les filles, ça s'est plutôt bien passé. Bon, voilà, peut-être à 17. On se rebelle
sympa.
Un peu, mais c'est pas... J'ai pas eu de drames, enfin de choses un peu difficiles à gérer. Et je crois que la communication, on a toujours voulu rester. Et ça, je l'ai appris quand j'ai travaillé avec Madame Chirac pour les maisons des adolescents. Moi, j'étais plutôt marraine des maisons des adolescents. Et j'ai appris par les psychologues, par tous ces gens qui entourent ces enfants, ils sont extraordinaires. Et ils vous disent ne jamais, jamais casser la communication. La colère, les cris. C'est une forme de communication, peu importe, mais il faut toujours l'avoir.
La colère, les cris...
Le silence, c'est ce qu'il y a de pire.
Oui, mais la colère, les cris, ça coupe court à la discussion en général. Oui,
mais en fait, donc... il faut essayer d'entendre le mal, le mal-être. Et peut-être même essayer de dire, je comprends, ok, t'as envie de me crier dessus, t'as envie, je comprends ta colère. En fait, il faut essayer vraiment... c'est un moment difficile, mais un moment difficile aussi pour les parents. C'est pas que les enfants. Pour les parents, c'est difficile d'essayer de comprendre.
D'autant plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet, etc.
Ouais.
Il y a beaucoup de parents d'adolescents qui se sentent un peu dépassés, qui ont plus l'impression de faire le gendarme que d'être dans la communication.
Oui, mais on n'a pas le choix. On est obligé de mettre des limites. C'est pas possible. C'est pas possible.
Donc prise de tête, donc engueulade,
mais...
donc...
Oui, mais qui ne s'est jamais engueulé avec ses parents? Enfin, moi, je l'ai toujours fait. Moi, j'ai eu un moment rebelle aussi. J'étais vraiment pas facile. Hein. J'ai même été un peu loin.
Ah ouais?
Ouais.
Du genre?
Enfin, j'ai pas du le droit genre... de le dire.
Ah non, bah si, vous pouvez, c'est bon.
Alors, moi, je traînais des fois avec une bande. Je suis pas sûre que ma mère, elle était très... Moi, j'ai fait des fugues. J'ai fugué, hein. Ah ouais, on habitait au premier étage. Enfin, genre au rez-de-chaussée. Donc, facile, hein.
Ah non, vous avez fait le mur, pas les fugues. Vous avez fait le mur, c'est-à-dire vous sortiez sans le dire à vos parents?
Oui, mais j'allais très loin. D'accord. J'allais de Rouen à Paris quand même.
À quel âge?
Bah, je ne devrais pas dire ça.
Bah si.
Il ne faut pas que mon fils m'entende.
À 14 ans, non?
Je devais avoir 15 ans.
Ok. Merci de passer le week-end ici avec nous. Estelle Lefébure, elle a défilé pour les plus grands couturiers, a fait les couvertures de magazines prestigieux. Elle a écrit aussi. Son 5e livre est sorti en janvier dernier. Dans le rétro, nous sommes avec l'actrice et top modèle Estelle Lefébure.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Estelle Lefébure, top modèle. Estelle Lefébure, animatrice télé, comédienne. Vous êtes aussi auteure téléportation. Nous sommes dans une librairie. Sur l'étalage, il y a là vos livres. Orae, la méthode Estelle Lefébure, sortie en 2015. Ma méthode anti-âge, sortie en 2017. Le bien-être pour les enfants, paru en 2018. Il y a dans ce livre une phrase de Françoise Dolto. En naissant, un enfant transforme 2 adultes en parents. On peut dire ainsi que c'est l'enfant qui fait les parents. C'est ce que vous pensez? C'est aussi beaucoup l'influence des parents qui joue finalement sur l'enfant, non? C'est l'inverse aussi. On a une influence aussi sur nos enfants, non?
Oui.
C'est simple la question que j'ai posée ou pas? J'ai l'impression que je me suis un peu embrouillée. Non, mais je l'ai vu dans votre regard. Donc en fait, je vais reprendre en gros.
Non, c'est la fin de la phrase de Françoise Dolto. Et du coup, après votre question, j'ai l'impression qu'elle est à l'envers.
Mais moi aussi, non, mais moi aussi, j'ai... Mais vous voyez où je veux en venir? Les enfants changent la vie d'un parent.
Oui.
Voilà. Mais nous aussi, finalement, on a une influence sur les enfants. C'est plus clair,
voilà.
Ou pas?
Oui. Alors, oui, en effet, on a forcément une influence, mais c'est là toute la difficulté, c'est de ne pas trop influencer les enfants. On est toujours un guide. On va essayer de les guider le mieux possible vers un chemin.
Le meilleur,
le plus positif. Et puis après, il y a quand même l'ADN de l'enfant. Il y a l'enfant qui lui-même va apporter ses propres choix. Il y a un moment, les choix, on ne peut pas les faire à la place de son enfant. Mais moi, je dis toujours à mes enfants, merci de m'avoir choisi comme maman.
Ah bon ?
Ah bah oui. Ah oui.
Mais ils ne l'ont pas choisi.
Eh si.
Pourquoi ?
Ah moi, je suis persuadée. Ah mais je suis persuadée que l'enfant choisit.
C'est-à-dire alors, parce que vous imaginez ça comment ?
Mais nous, on est fait que d'énergie, d'atomes. Donc après, quand voilà, il y a un moment, c'est vrai que là, mais c'est très fort aussi. Donc on a cette espèce de matrice. On nage là-dedans. Et je pense qu'il y a un moment où l'enfant va aller vers cette famille, c'est pour ça qu'après, alors ça c'est la réincarnation, c'est tout ça. Mais quand on pense comme ça, on voit différemment vraiment la vie avec ses enfants.
Quand vous leur dites « merci de m'avoir choisi », qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Parce qu'au départ, c'est surprenant d'entendre ça de la part d'une maman ou d'un père ou...
Oui, mais maintenant, ils me disent « mais t'es la maman qu'on voulait avoir ». Donc,
ouais.
Je trouve ça...
Beau.
Merci. Mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est assez complexe quand on est très cartésien comme ça et comme voilà.
Oui, mais ça fait du bien de penser ça aussi. Il y a un côté assez rassurant. Et puis ça peut pas faire de mal de le penser surtout.
Ah non, pas du tout. Maintenant,
en fait,
au contraire.
On change d'époque maintenant. Nous sommes face à la mer, ça c'est pour faire le lien avec votre asso Spero Mare pour la protection des fonds marins. De façon plus générale, vous êtes très engagée dans la protection de l'environnement. En tant que mannequin, vous avez forcément un avis sur la fast fashion qui a un impact sur l'environnement. La marque Shein, par exemple, fabrique de plus en plus et de moins en moins cher. C'est une catastrophe écologique. En Chine, certains disent même, je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà entendu cette phrase, on peut connaître la couleur de la mode rien qu'en regardant celle de la rivière.
Oh, quelle horreur!
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est triste tout ça. Ah non, mais moi, alors je suis contre, forcément. Je préfère surtout que maintenant, j'aime même acheter du vintage, acheter du seconde main, parce qu'on peut trouver des boutiques. Moi, à Paris, j'ai une boutique d'une amie que j'adore, et vraiment, elle me déniche des chemises, des vestes sublimes. Et en fait, je préfère mettre un peu d'argent dans une valeur sûre plutôt que de jeter, parce que je sais qu'après, les vêtements, comme vous dites, de cette marque, c'est lamentable.
Mais la mode...
Parce que, alors après, on va me dire, oui, mais tout le monde n'a pas d'argent. Mais je suis désolée. Généralement, le panier de ces jeunes filles qui commandent, c'est pas que 3 euros. Hein. Elles en commandent des tonnes.
Enfin, les jeans, c'est 9 euros le jean et 2 euros le t-shirt quand même. Donc effectivement, on peut en commander des tonnes, mais pour le prix de...
Oui, mais vous allez les garder combien de temps ? Donc, le mois d'après, vous allez en recommander ? Ah bah dis donc,
mais il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que la mode avant, il y avait, je crois, c'était quoi, 2 collections par an ? Maintenant, il y en a énormément. Donc, on suscite l'envie aussi chez ces jeunes filles, notamment. C'est-à-dire que sans arrêt, il faut être dans le coup, il faut être à la mode. Et puis, ça tourne. Donc, on consomme.
Il y a un gros souci quand même, c'est toutes ces personnes qui influencent les jeunes filles à dire « Regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui, regardez !» Et ça, c'est pas possible. Il faudrait déjà arrêter que ces jeunes filles, et ces jeunes hommes aussi, fassent cette pub. Ils devraient influencer sur autre chose. Et c'est étonnant que toute cette génération ne soit pas aussi consciente du mal qu'elles font. C'est-à-dire que même par rapport à la planète, pourtant maintenant on en parle. Je veux dire, c'est pas nouveau. Eh bien non, on continue. Donc je crois qu'il faudrait qu'il y ait en effet plus de réglementation aussi par rapport à ça.
Estelle Lefébure, on va clore notre voyage en musique. C'est mieux là, non ?
Ah oui, merci. Je peux inspirer, expirer. Je peux vous faire un cours.
Weightless de Marconi Union, vous connaissez ou pas ?
Non.
Ça vous dit quelque chose ?
Non.
D'après des chercheurs de la British Academy of Sound Therapy, ce serait la chanson la plus relaxante du monde. Sa rythmique en fait de 60 BPM, donc battements par minute, est calquée sur le rythme cardiaque.
Tout à fait.
C'est idéal donc pour la méditation que vous pratiquez. On va terminer avec cette pensée du livre tibétain de la vie et de la mort. « Quelles que soient les pensées et les émotions qui se manifestent, laissez-les donc s'élever puis se retirer, telles les vagues de l'océan. »
Incroyable. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas lu ce livre. Je crois que je vais le relire avec une vision différente, forcément. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans l'océan. Donc moi, j'y suis très attachée. En effet, comme vous avez dit, avec l'association Sperro Mare, on essaye d'œuvrer pour la protection et la sauvegarde des océans. Une de nos actions très importante, c'est la sensibilisation auprès des enfants. Et je crois que c'est eux l'avenir de cette planète. On est juste locataire, hein. On n'est pas propriétaire. Il y a urgence quand même. Il faut se rapprocher de la nature. Il faut que vraiment on arrive à prôner le vivre ensemble entre la nature et l'homme.
Merci Estelle Lefebvre.
Merci.
Welcome, Accueillir le temps qui passe, c'est un livre doux et utile, c'est savourer l'existence avec grâce et bienveillance, c'est apprendre à s'aimer et aimer pour apprendre, c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous, d'autres invités, d'autres destinations en podcast, passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.